Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous et tout d'abord peut-être une petite introduction. Qu'est-ce qu'Action Autonomie?
Qu'est-ce qu'Action Autonomie? C'est un collectif de défense des droits en santé mentale pour la région de Montréal. Nous avons deux volets. Un volet d'aide individuelle, c'est-à-dire les gens peuvent nous appeler. On propose de l'aide et de l'accompagnement dans leur démarche à tous les niveaux, dans tous les domaines de droit, là, et pas seulement de droit en santé mentale. Ça va pour le volet individuel. Il y a le volet collectif, dont le dossier de garde en établissement, que nous allons parler là, tantôt, dans quelques instants. Ou à ce moment-là, bien entendu, comme ça le dit, c'est plus des pressions au niveau collectif. Faire changer, évoluer, améliorer les lois en matière de santé mentale. Lorsqu'on parle de collectif, c'est un collectif qui a été créé il y a 20 ans. Nous fêtons notre 20e anniversaire. Ça a été créé par des personnes qui avaient utilisé de façon volontaire ou non les services de psychiatrie et qui ont décidé de se donner des outils là, pour se prendre en main, être mieux informés et informer les gens aussi.
Alors, on vous invitait pour parler des questions de détention, mais faut peut-être mettre quelques éléments en place avant, puisque quand on parle de détention pour des personnes qui ont un diagnostic en santé mentale, il peut s'agir de toutes sortes de choses. Il peut s'agir de personnes qui ont commis un délit ou non, de personnes qui sont volontairement ou non volontairement en espèce de détention ou de garde forcée. Est-ce qu'on peut avoir un portrait un petit peu de c'est quoi ces situations de détention pour personnes ayant un diagnostic de santé mentale?
Bien, il y a deux volets, comme vous venez de le dire. Il y a le volet, là, lorsqu'on parle de prison, d'emprisonnement, là, c'est évident qu'il y a 4 fois plus de personnes ayant un problème de santé mentale que toute autre personne en prison. Ils se retrouvent, sont très nombreux. Et pas parce que là, il y a le fameux mythe là, que sans problème de santé mentale égale violence, c'est un mythe que lorsqu'on regarde, étudie les recherches qui ont été effectuées sur ce sujet, c'est un mythe qui ne tient pas. Là. Au Canada, pour ce qu'on parle de crimes violents, là, c'est 3% de personnes qui ont des troubles, des problèmes de santé mentale qui commettent des crimes violents. Ce qu'on retrouve dans le milieu carcéral, c'est beaucoup pour des délits de survie, des délits mineurs. Ils ont plus de chances, lorsqu'ils ont un problème de santé mentale, de se faire arrêter, de se faire incarcérer que d'autres personnes dans la société. Et là, je parle de délits mineurs, bien entendu. On ne parle pas de rien de majeur. Ça, c'est un autre histoire. Bien entendu, on retrouve aussi nos crimes violents que je parlais. 3% des personnes, des crimes violents sont commis par des personnes qui ont des troubles de santé, des problèmes de santé mentale graves et persistants. On pense entre autres à la schizophrénie, mais c'est 3%, c'est peu, c'est minime. Donc, c'est surtout là, des délits de survie, hein, voler un dépanneur pour payer son repas au restaurant ou des délits mineurs qu'on va retrouver dans le milieu carcéral. Il y a aussi le fait qu'avec la désinstitutionnalisation, Seigneur, je l'ai dit sans m'accrocher dedans, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dans la société et parallèlement à ça, la société a développé aussi a développé de l'intolérance par rapport à ce problème-là. Là. Quelqu'un qui parle tout seul sur la rue, on appelle la police. C'est pas compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent plus en prison que la majorité du monde. Il y a l'autre volet, qui est la garde en établissement. Ça, c'est lorsqu'on considère qu'une personne peut être dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Donc, à ce moment-là, on peut essayer, bon, en appelant la police peut intervenir et amener cette personne-là de force à l'hôpital. Donc, là, sont gardés contre leur gré. C'est pas un acte criminel qu'elles ont commis. C'est simplement que, bon, on considère que leur état mental constitue un danger pour elles-mêmes et pour autrui. Sauf que dans les faits, ce qu'on constate, encore une fois, c'est la psychiatrisation des problèmes sociaux. C'est des personnes souvent, malheureusement, très souvent majoritairement défavorisées socialement et qui sont démunies, qui sont en souffrance parce qu'elles vivent des stress énormes et donc et pas nécessairement des personnes qui sont dangereuses dans le sens que la loi nous dit que ça devrait être appliqué. À titre d'exemple, dernièrement, au mois de février de cette année, il y a 2 rapports d'enquête qui ont été faits sur la garde en établissement. Les 2 rapports arrivent à la conclusion que la notion de dangerosité va être interprétée différemment selon d'un intervenant ou un autre. On donne l'exemple, entre autres, d'une personne qui était mise en garde en établissement parce qu'elle est arrivée en retard. On ne parle pas de danger, là. les policiers, souvent, quand ils se sentent démunis, dépassés par la situation, amènent la personne à l'hôpital. Donc, bref, le mythe de danger ou de violence, ça ne tient pas.
Donc justement, mettons, pour aller un peu plus loin sur les enjeux que ça pose, cette question de pouvoir détenir des gens sous cette formule dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, mm-hmm. Qui laisse, comme on le pressent, là, beaucoup de place à l'interprétation. C'est quoi les enjeux, les situations qu'on voit le plus souvent, puis c'est quoi les actions qui sont faites pour changer un petit peu de vision sur cette question-là?
Sur cette chose-là, la protectrice du citoyen et le ministère de la Santé et des services sociaux viennent de publier, bon, comme je l'ai dit, deux rapports et avec des recommandations précises. La protectrice du citoyen parle d'orientation pour aider les intervenants à avoir une vision commune là, de ce que c'est un état mental qui présente un danger. Bon. Et il y a d'autres recommandations aussi, parce qu'on a réalisé à travers nos études que 98%... Non, j'embarque sur un terrain, je n'embarquerai pas là-dessus. Bon, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. La formation aussi, beaucoup aux intervenants, parce que les délais qui sont prévus dans la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, il y a des délais très stricts. Il n'y a aucun de ces délais-là qui sont respectés. Donc, on détient des personnes illégalement. En dehors du cadre rigide, qui est très rigide de la loi, mais le cadre est rigide parce qu'on enlève la liberté à quelqu'un, c'est grave, donc pour que ce soit super encadré, pour pas que ce soit fait pour des raisons autres que celles prévues dans la loi.
Puis ce qu'on voit aussi, c'est souvent l'ignorance des proches qui savent pas que amener quelqu'un en crise à l'hôpital, ça peut vouloir dire que la personne pourrait être détenue. Donc c'est aussi peut-être l'absence de ressources entre les deux ou intermédiaires.
Ça, c'est évident. Écoutez, quand on a entrepris la grande entreprise de désinstitutionnalisation dans les années 80, pour ce qui est du Québec, ou même peut-être un peu avant, c'était entendu qu'il fallait qu'il y ait des services de suivi après dans la société. Il n'y en a pas. On est rendu en 2011, il n'y en a pas en nombre suffisant. Les seules personnes qui ont un suivi, c'est les personnes qu'on qualifie qui ont un problème de santé mentale, de troubles graves et persistants. Mais pour toutes les autres qui ont un problème de santé mentale, qui n'est pas qualifié de grave et persistant, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de ressources suffisantes, ni dans le milieu communautaire, et encore moins dans notre système de santé. La santé mentale, c'est parent pauvre là, du système de santé. Ça fait longtemps qu'on réclame à corps et à cri là, des centres de crise pour accueillir ces personnes-là. Ça existe, des centres de crise, mais leurs critères ne fonctionnent pas. Leurs critères pour être en mesure d'être reçus, ça fonctionne pas toujours avec une personne qui vit une détresse passagère. Non, c'est pas toujours ça. Donc, la personne se retrouve le seul autre choix qui reste aux familles ou aux policiers ou à quiconque, c'est d'amener la personne à l'hôpital, alors qu'il pourrait y avoir facilement d'autres ressources qui pourraient aider, genre parler à la personne. Parfois, c'est tous nos membres dans les activités qu'on fait. Oui, lorsqu'on les consulte, la première chose qu'ils nous disent à l'hôpital, il n'y a personne qui nous écoute. Des fois, ça serait simple, ça prendrait pas des moyens extraordinaires.
Puis donc peut-être là-dessus, il y a une partie en fait qui est à la source là, de cette chaîne qui mène à des détentions, on y reviendra, c'est la mauvaise compréhension des maladies dites de santé mentale, comme si les questions de santé mentale étaient pareilles qu'un rhume ou une maladie qui va se guérir puis qui disparaît de cette façon-là. C'est peut-être sur cette notion-là, c'est quoi la notion ou la façon dont vous expliquez les problèmes de santé mentale aux proches ou aux gens qui n'ont pas nécessairement cette compréhension-là?
Oh mon Dieu, belle question. Comment qu'on explique ça? Le problème de santé mentale, une personne peut être... Ça arrive que les personnes soient désorganisées. Donc, elles ont besoin d'aide, de soutien. Ce serait mieux que ce soit dans la communauté plutôt que les amener de force à l'hôpital. Ce serait préférable. Sauf qu'une personne qui a un problème de santé mentale n'a pas un problème de santé mentale. Elle n'est pas désorganisée 365 jours par année. Ça peut être une journée, ça peut être deux jours, mais sauf qu'on en profite, en tout cas pour les super, les surmédicalisés. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, là. Mais nous, on fait peu à faire avec les proches. C'est vraiment la personne elle-même, là, la personne qui est concernée là, par le problème ou qui ont un diagnostic ou qui pense que, ou en tout cas, c'est les proches, les familles et les proches, on les réfère. Là. Il y a une association qui leur vient en aide, on les réfère à ce moment-là, à ces personnes-là.
Puis d'après, vous nommiez plutôt des recherches, des études, il y a combien de personnes qui sont détenues régulièrement contre leur gré et combien de cas à peu près, si vous avez des chiffres, sont considérés comme illégaux, comme hors des normes établies de détention?
Oui, écoutez, la dernière recherche qui a été effectuée par Action Autonomie est en 2008. On parle de toutes les requêtes pour garde en établissement, requêtes pour garde provisoire, requêtes pour garde en établissement et renouvellement d'ordonnance. Là. On parle de 2460 requêtes qui ont été déposées au palais de justice de Montréal. Selon l'analyse que nous avons faite, des renseignements qui nous sont accessibles, parce que les expertises médicales, on les a jamais, malheureusement, c'est sous scellé, on peut pas y avoir accès. Mais pour selon les informations qui sont contenues dans les dossiers de la Cour, on considère, on affirme même que 1329 personnes qui ont été détenues illégalement. Et la façon de calculer, de faire le calcul, c'est en vertu de la loi que j'ai nommée tantôt là, sur la protection, on peut garder une personne sans ordonnance de la Cour pendant 3 jours. C'est le maximum, c'est 72 heures. Après ça, on devrait la libérer. Et ce qu'on a constaté dans les dossiers, c'est que la première expertise médicale se fait le lundi et l'ordonnance de la Cour est rendue 6 jours plus tard. Donc, ces personnes-là ont été détenues entre 3 et 4 jours de façon illégale.
Ça, c'est une situation qui a de l'air courante. Et également, comment ça fonctionne, les personnes qui, à ce moment-là, se retrouvent à avoir commis un délit qui, comme vous le rappelez, n'est pas nécessairement les mythes là, qu'on entretient avec les films à la télévision. Là, ça peut être un délit comme avoir mangé une pomme là, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quoi les chances de sortie ou c'est quoi leur situation? Parce qu'on imagine qu'une fois qu'on est en détention pour en plus judiciariser de par ces problèmes de santé mentale, quelles sont les possibilités de sortie? Quelles sont les situations? Est-ce que c'est un système infernal duquel on sort jamais? Comment ça se
présente? Malheureusement, on parle du syndrome des portes tournantes aussi là, pour les personnes qui sont en prison, emprisonnées, en milieu carcéral. Encore une fois, dans le milieu carcéral, ils n'ont pas toujours les services auxquels ils ont droit. Première des choses, les milieux carcérales est mal outillés à ce niveau-là là, pour répondre aux besoins des personnes. On parle des fois d'une semaine avant que les gens puissent avoir leur médication. C'est terrible. Il y a des sevrages qui sont très difficiles. Donc, le milieu carcéral par lui-même est désorganisant. C'est stressant, c'est désorganisant. Donc, en plus, quand tu as un problème de santé mentale, malheureusement, ces personnes-là sont laissées souvent à elles-mêmes. Là. Et ça prend du temps avant qu'on intervienne, qu'on leur revienne en aide. Et bien entendu, à sortie, on en retrouve encore avec le même problème, pas de suivi. Donc, elles se retrouvent dans la société, pas mieux qu'avant, parce qu'on les a pas aidés, on n'a pas aidé, on n'a pas traité le problème de santé mentale à l'intérieur, pas mieux qu'avant, et donc, elles se retrouvent dans les mêmes situations, dans le même cercle.
Mm-hmm. Et peut-être en conclusion, Action Autonomie s'intéresse à cette question-là, mais aussi à d'autres campagnes. Ou quelles sont les revendications ou les mobilisations sur lesquelles vous auriez des appels à faire ou à aller voir vos informations ou les rapports que vous avez produits?
Par rapport à la garde en établissement en milieu hospitalier, non, la garde forcée à l'hôpital, il va y avoir une campagne là, qui va être organisée cet automne par Action Autonomie, pas par Action Autonomie comme telle, mais par l'organisation provinciale dans laquelle nous on fait partie, mais on est très actifs, bien entendu, c'est notre dossier. Donc, il va y avoir une mobilisation pour essayer, parce que c'est beau, tout le monde a fait des belles recommandations suite au rapport, sauf qu'on n'a pas d'engagement ferme, pas d'échéancier, pas de plan d'action, pas d'orientation, donc assez d'obliger le gouvernement Scomet qui nous donne des dates. Oui, il va y avoir des consultations telle date, oui, des orientations telle date. Bon, on sait qu'ils peuvent les reporter, là, mais au moins qu'il y a ça. Bon, par rapport aux autres dossiers, il y a un dossier qui prend de plus en plus d'importance ici parce que nous avons de plus en plus de demandes. C'est en nombre croissant et de façon assez impressionnante. Ce sont les requêtes pour obliger une personne à subir des traitements. Il y a une étude qui est en train de se faire, qui devrait être prête la semaine prochaine, qu'on va rendre public durant l'année. Bien entendu, on pense à une activité publique où on pourra joindre les deux, garde d'établissement et requête pour traitement et hébergement. Et dans les autres dossiers d'Action Autonomie, on est bien il y a un comité qui est indépendant d'Action Autonomie, qui est le comité par choc qui conteste là, les électrochocs. C'est un dossier qui, à chaque printemps, entre autres, on fait une sortie la veille de la fête des mères pour dénoncer ces traitements-là et dénoncer surtout qu'il n'y a aucune étude indépendante pour évaluer la sécurité, la dangerosité de ces traitements-là. Là. On administre ça, mais on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'études indépendantes, en tout cas. Dans les autres dossiers, on est toujours très vigilant par rapport à tout ce qui se passe par rapport aux taser, aux armes à impulsion électrique, aux abus policiers. On est aussi très vigilant. C'est pas des dossiers que je qualifierais de prioritaires, mais encore là, la conjoncture dans la société fait que des fois des dossiers qui sont moins prioritaires le deviennent, mais on est vigilant. On assure une vigie, s'il se passe quelque chose, être en mesure d'intervenir rapidement.
Puisqu'effectivement, les questions de brutalité policière et d'abus de pouvoir, j'imagine, sont fréquents pour...
Des personnes qui ont des problèmes.
Oui.
De santé mentale, oui.
Non, c'est ça. Puis peut-être une dernière question de curiosité, là. Vous avez mentionné la question des électrochocs, mais dans la culture populaire, on imagine toujours que c'est du passé, ces électrochocs-là. Sont-ils revenus? Est-ce qu'ils sont jamais partis?
Ils sont jamais partis.
C'est ça.
Ça existe toujours. C'est toujours administré majoritairement aux femmes. C'est la raison pour laquelle, symboliquement, on fait ça la veille de la fête des mères. Oui, ça existe toujours. Là, malheureusement, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais c'est quand même un nombre assez important au Québec.
Ben, on aura d'autres occasions de vous réinviter pour parler de tous ces enjeux-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Alors, peut-être un petit mot pour voir vos campagnes, savoir où vous rejoindre, j'imagine, pour devenir membre, si on veut faire partie si on est aux prises avec les mêmes situations puis qu'on veut vous connaître, on peut aller sur votre site web, www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup.
Exact. OK, ben merci.